Frères et sœurs, je voudrais partager avec vous une méditation de circonstance. Il y a des moments où vous ne choisissez pas forcément le texte sur lequel vous allez prêcher. C'est un peu ce que je vis avec vous là ce matin. Je voudrais dire par là qu'il y a des moments où ce n'est pas ce qu'on a sur le cœur, très fort même, que nous allons dire. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas une science exacte par rapport à ça. Ce matin, je vais partager avec vous, voudrais-je dire, un texte qui nous prépare peut-être à ne pas arriver dans quelques jours à Pentecôte comme si cela arrivait comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et donc, je me suis obligé à prendre l'un des nombreux textes lus dans diverses églises chrétiennes ce matin et peut-être médité par vous aussi ce matin. Ce texte est tiré de l'évangile de Jean, en son chapitre 14e. Je lirai les versets 15 à 21. Écoutons. Évangile du Seigneur. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. Encore un peu, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, parce que moi je vis et que vous aussi, vous vivrez. En ce jour-là, vous saurez que moi je suis en mon Père, comme vous en moi et moi en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Nous vivons dans un monde saturé d'informations, mais souvent vide de vérité. Un monde où nous sommes de plus en plus hyper connectés et en même temps profondément isolés. Un monde dans lequel crises s'enchaînent, guerres, violences, polarisation, méfiance généralisée, épuisement intérieur, collectif aussi. Beaucoup avancent au milieu de nous et peut-être nous-mêmes avec eux, avec des cœurs troublés. Et c'est précisément dans un moment troublant que Jésus prononce ces paroles que nous venons de lire à l'adresse de ses disciples. Dans l'évangile de Jean, ces versets s'insèrent dans le contexte des derniers jours de Jésus. Les premiers versets du chapitre 13 nous rappellent ce contexte. Avant la fête de Pâques, Jésus sait que l'heure est venue pour lui de quitter ce monde pour aller au Père. Les disciples sentent que quelque chose de grave se prépare. Après leur avoir lavé les pieds, mettant ainsi le comble à son amour et à son esprit de service, il a annoncé que Judas allait le trahir. Et à Pierre, le roc, il a annoncé qu'il allait le renier. Jésus savait que son heure de gloire, pour reprendre une expression de Jean, c'est-à-dire sa crucifixion, allait être imminente. Alors, les disciples sont naturellement troublés et se posent mille questions. Humainement parlant, tout semble pour eux s'effondrer. Tout ce sur quoi ils avaient construit leur espérance paraît vaciller. Et Jésus, pourtant, propose aux disciples cette parole de confiance et de paix. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Mon premier souvenir au contact de cette parole remonte à mon âge de 9 ans. Ce fut par ces paroles que le pasteur de mon église locale au Cameroun alors voulait consoler notre famille éprouvée par le décès de ma chère grand-mère Rose. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et ensuite, il est question des demeures qu'il nous prépare et de cette assurance que là où il est, nous aussi, nous serons. Frères et sœurs, dans ces temps incertains et quand bien de tempêtes et d'inquiétudes s'abattent sur nos pays, sur nos vies, que peut-être la confiance vacille, Jésus ne nous donne pas d'abord un mantra ou une philosophie ou une recette. Il nous donne sa confiance. Une confiance qu'il veut habiter durablement de sa présence. Confiance dans la tempête, paix dans le trouble. Que votre cœur ne se trouble pas. Ensuite, Jésus va nous parler de cette confiance en la liant à l'amour et à l'obéissance. Il ajoute, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Jésus a parlé longuement à propos du commandement de l'amour dans les chapitres précédents. Il nous rappelle que l'obéissance chrétienne n'est pas une performance que nous devons déployer pour gagner l'amour de Dieu. Mais en fait, au fond, elle est la réponse d'un cœur qui se sait déjà inconditionnellement accueilli et aimé de Dieu. Sa grâce toujours nous précédant. Alors la foi à laquelle Jésus exhorte ses disciples est une foi qui est liée à son amour et à sa parole qu'il nous invite à habiter et à garder comme une ancre pour nos âmes en ces temps incertains. Je vous donne, dit Jésus au chapitre 13, verset 34 à ses disciples, un commandement nouveau. Que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. C'est avec ce passage que nous avons ouvert notre rentrée d'église en septembre dernier et que nous avons essayé d'approfondir ces différentes exhortations bibliques qui nous rappellent que nous ne sommes pas les uns face aux autres dans une confrontation, mais plutôt appelés à être cette église qui construit le côte à côte, les uns aux côtés des autres. Les uns par, pour et avec les autres. Dans ce compagnonnage des disciples de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, dans un monde où le levain de la haine du prochain pilule et empoisonne notre humanité, nous sommes aussi exhortés, comme les disciples le furent en leur temps, à cultiver cet antidote puissant qui est l'amour de Dieu et l'amour les uns pour les autres. Un amour qui puise sa force dans l'union au Christ et à son Père. Cette communion trine dont Vincent nous a parlé à l'instant. Cet amour qui doit être le signe par excellence de la communauté des disciples de Jésus ne manquera pas d'être éprouvé dans sa consistance. La trahison de Judas, le reniement de Pierre, déjà nous avertissent. Nul n'est par lui-même à la hauteur d'un tel amour. Même avec les meilleurs sentiments comme ceux de Pierre, Jésus le sait, nous ne sommes pas à la hauteur d'un tel amour. Aussi, prie-t-il pour nous, le Père, afin qu'il nous donne, après lui, un autre défenseur. Jésus dit, « Je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours. » Voilà la promesse d'un autre défenseur. Vous le savez, le mot grec traduit par « défenseur » et certaines versions ont traduit « consolateur » par « parakletos » comporte l'idée de quelqu'un appelé auprès d'un accusé pour l'assister. C'est un peu le conseil juridique, j'ai envie de dire. L'avocat, d'ailleurs, les latinistes ont ainsi traduit en donnant un équivalent advocatus à ce parakletus, en quelque sorte. Celui qui est appelé à se tenir à nos côtés pour notre défense. André Chouraki traduit le réconfort, le réconforteur. Alors pourquoi les disciples avaient-ils besoin d'un défenseur, d'un conseiller, d'un réconforteur? L'une des clés de lecture de l'évangile de Jean qui a été proposé par des commentateurs, des exégètes, consiste à y voir le motif d'un procès. Alors, avec cette hypothèse de lecture, Jésus sait que le monde l'a mis en accusation et Jean a organisé son récit pour que face à ces accusations, un certain nombre de témoins au fil du texte viennent devant, en quelque sorte, le tribunal du monde témoigner en faveur de la vérité, c'est-à-dire de Jésus. Jésus lui-même a défendu sa cause, mais il avait bien compris qu'au-delà de lui, c'était le Père lui-même qui était mis en accusation. S'il prétend être fils de Dieu et qu'il ne l'est pas, non seulement il est menteur, mais il dit alors le Père aussi est déclaré menteur puisque le Père atteste « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » En produisant donc ces témoins et en mettant ses adversaires au défi de prouver sa culpabilité une fois qu'il sera parti, le Saint-Esprit, l'autre défenseur, l'autre paraclet, prendra le relais aux côtés des disciples de Jésus pour défendre la cause de Jésus dans le procès qu'il oppose au monde incrédule. Et il va le faire en équipant les apôtres pour qu'ils témoignent avec hardiesse, avec conviction en faveur de Jésus. Cette aide ne sera pas pour les disciples une aide passagère, mais Jésus promet sa présence au cœur de leur cheminement, au cœur de leur vie, par le moyen de son Esprit Saint. C'est ainsi que, bien qu'absent de corps, bien que dérobé à la vue, il sera visible, présent par l'Esprit Saint. Depuis 2000 ans, mes amis, nous le savons, ce n'est pas seulement le Christ qui est accusé, qui est mis à mal, mais à travers lui, c'est aussi son Église. On pourrait reprendre tout à fait aujourd'hui aussi les paroles que le Christ a eues à l'égard de Saul. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?» parlant de son rapport à son corps, à l'Église. En janvier dernier, nous recevions la mission Portes Ouvertes qui nous faisait un état de lieu de la persécution des chrétiens dans le monde. Et cette réalité, elle a accompagné d'une certaine façon de tout temps l'évolution de l'Église de Jésus-Christ. Et si nous avons la grâce de vivre dans un pays qui nous reconnaît la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de conscience et qui garantit le libre exercice des cultes, il n'en demeure pas moins que, aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens font l'expérience de diverses pressions, parfois ouvertement, parfois subtilement, parfois c'est le mépris qui nous est imposé, parfois c'est l'indifférence, parfois c'est la caricature. Et il faut dire qu'elle ne manque pas en ce moment, tant les évangéliques outre-Atlantique donne une représentation de la foi évangélique que nous ne pouvons pas, en réalité, en tant qu'évangéliques de France, d'Europe, comment dire, complètement valider. Nous devons le reconnaître et nous devons le dire, cet évangélisme qui a le projet de diriger le monde à travers un homme qui est érigé en Messie, s'éloigne de l'esprit de l'évangile du Christ. Et nul n'est besoin d'entrer dans un débat politique pour le discerner. Et le Christ nous en donne le critère, l'amour de Dieu. L'amour du prochain, l'amour des plus fragiles, le respect de la justice, le respect du droit, le renoncement à l'illusion de la toute-puissance, de la violence, etc. Alors ne nous laissons pas caricaturer et réduire à un évangélisme qui n'est pas l'Évangile. Soyons caricaturés comme aimant beaucoup. Soyons caricaturés comme souffrant quelques injustices. Soyons caricaturés comme servant. Soyons caricaturés comme suivant le Christ et voulant être configurés à son image et à son cœur. Mais soyons également prêts à accepter les accusations que le monde pourrait continuer de nous porter. Le Saint-Esprit ne vient pas produire en nous des bons sentiments chrétiens, des émotions spirituelles. Il vient précisément dans ces temps de confusion que l'histoire de notre monde a connu. Il vient soutenir des croyants fragiles dans un monde qui ne comprend pas toujours leur espérance. Il y a quelques jours, je suis venu ici reprendre, c'était le 8, donc il y a, c'est pas longtemps, là, le 8 mai, parce que je marche dans ma voiture, j'écoutais un radio-trottoir et plus de 75% des répondants ne comprenaient pas à quoi correspond historiquement le 8 mai. Je vous assure, ça fait peur quand même. Alors j'ai pensé à des personnes comme Dietrich Bonhoeffer. Je suis revenu dans mes cartons ici à la bibliothèque sortir sa bibliographie. Et là, j'ai entendu vraiment comme une parole du Seigneur. Il m'a dit, souviens-toi. Souviens-toi. Si nous ignorons l'histoire de ce monde, si nous l'oublions, nous sommes condamnés à être du côté de ceux qui reproduisent inlassablement les horreurs que d'autres ont combattues au nom de l'Évangile, au prix de leur vie. Ce que Jésus demandera au Père en la faveur de ses disciples, c'est qu'ils soient animés d'un autre esprit, de son esprit. Un esprit qui est toujours prêt à venir en aide. Un esprit qui est prêt à affronter l'obscurité du monde parce qu'il reçoit sa lumière du Christ. Un esprit de réconciliation, un esprit de consolation, de réconfort. Et au milieu d'un monde où pullulent toutes sortes de mensonges, un esprit de vérité. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Mais vous, nous dit Jésus, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. L'aide que Jésus annonce à ses disciples est ainsi nommée esprit de vérité ou de la vérité. Parce que esprit de Dieu, il est lumière et vie. C'est-à-dire, il est vérité complète. Et cette vérité, ce n'est pas une opinion. Ce n'est pas une doctrine. Cette vérité est une incarnation. Pour nous, cette vérité, c'est le Christ. Jean 14, 6, c'est la réponse qu'il donne à la question de Thomas. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si le monde ne peut pas recevoir l'esprit de vérité parce qu'il ne le voit pas encore, ça ne veut pas dire que Jésus condamne le monde à rester pour toujours dans son errance. La Bible atteste que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais est la vie éternelle. Le monde dont parle Jean, ce n'est donc pas une humanité complètement condamnée. Il parle de cette humanité qui a tendance à s'enfermer dans son incrédulité et par conséquent dans son obscurité. À l'inverse, recevons peut-être cette parole comme un encouragement, un envoi à être cette communauté animée par l'amour de Jésus qui rend visible un autre esprit au sein de ce monde. Un esprit qui éclaire, un esprit qui sanctifie, un esprit qui révèle, dévoile le Père, un esprit qui glorifie le Seigneur Jésus-Christ, un esprit qui soutient le faible. Toute vérité révélée, j'aime bien cette citation d'un commentateur, Louis Bonnet. Alors, le commentaire est déjà bien daté, mais je trouve ici une pensée, en tout cas, que je partage avec vous. Toute vérité révélée n'est pour nous la vérité que lorsque, par l'Esprit de Dieu, nous en avons fait une expérience vivante. C'est lui qui, en nous mettant en communion avec Dieu, nous le révèle tel qu'il est dans sa sainteté et son amour. C'est lui qui glorifie Christ en nous, c'est-à-dire nous met en sa présence. C'est lui, enfin, qui rétablit dans le vrai tout ce qui est faussé en nous, qui, en un mot, éclaire, régénère sanctifie l'âme. Jésus nous donne l'esprit de vérité afin que nous ne restions pas en ce monde comme des orphelins. Puis Jésus prononce cette parole, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Beaucoup aujourd'hui vivent plusieurs formes d'orphelinat, l'orphelinat intérieur. Certains ont grandi sans connaître ces attachements premiers, peut-être sans l'affection d'un parent, d'un père, d'une mère. D'autres sont entourés, mais peut-être profondément isolés, seuls. D'autres encore, peut-être, ont perdu confiance dans les relations parce que blessés, dans les institutions, y compris même confiance en l'Église. Jésus nous dit, quelle que soit la nature de l'orphelinat auquel nous pouvons être confrontés, mais ne versons pas trop dans le symbolique, il parle ici de ses disciples qui vont être plus qu'un ami, un seigneur, une sorte de figure paternelle, spirituelle. Et puis pour nous, ça peut aussi nous renvoyer à la réalité simplement humaine que je connais par ailleurs, comme beaucoup d'entre vous, d'être orphelin d'un parent, d'un proche, d'une personne, d'une relation significative. Mais Jésus nous demande d'accueillir, nous invite à accueillir cette promesse. Je ne vous laisserai pas orphelin. Les disciples continueront à faire l'expérience de sa présence au cœur de leur vie. Présence aimante, présence rassurante, présence vivifiante. Ils continueront par la foi à discerner sa présence, à l'œuvre dans leur vie, dans l'Église. L'Église une, mais l'Église locale, puisque l'Église une, nous n'en connaissons pas tous les contours, nous ne pouvons pas en faire le tour. Elle est connue seule du Seigneur. Et tout ceci, de le voir aussi présent au milieu d'un monde troublé. Jésus n'est pas seulement au milieu de ces églises, comme on peut le voir dans le livre de l'Apocalypse, mais il est à travers sa présence au milieu de ces églises, présent au milieu d'un monde qui attend sa révélation, le dévoilement total de son projet. Donc non seulement continueront-ils de le voir par l'Esprit, mais ils recevront au jour de l'Esprit, l'expression est de moi, il dit, en ce jour-là, une révélation plus complète de la communion qui existe entre le Père et lui. En ce jour-là, vous saurez, dit Jésus, que je suis en mon Père. Certains ont pensé que c'est le jour de la résurrection, quand Jésus se montre à ses disciples. D'autres ont pensé au jour de la parousie ultime, quand il reviendra. Je penche pour le jour de la Pentecôte, dans le contexte immédiat un peu de ses disciples. En ce jour-là, jour de l'effusion de l'Esprit, l'Esprit Saint, alors il vous conduira à une compréhension plus approfondie de ce que je vous disais, de la communion que j'ai avec mon Père et en laquelle je vous accueille. Vous expérimenterez et vous saurez que vraiment, vous êtes gardé en moi et je suis en communion avec le Père. Mes amis, frères et sœurs, la Pentecôte qui est devant nous n'est pas seulement un souvenir du passé. Et alors que nous y cheminons, rappelons-nous qu'elle est l'irruption permanente de la vie de Dieu au sein de son Église. Rappelons-nous que l'Esprit continue aujourd'hui d'éclairer, de consoler, de convaincre, de relever, d'envoyer. Alors, 2000 ans plus tard, alors que nous cheminons vers dimanche de Pentecôte prochainement, je voudrais vous laisser cette question en guise de conclusion. Comment l'Esprit de vérité inspire-t-il notre témoignage dans un monde rempli de confusion, d'illusions et de mensonges? Comment allons-nous apporter un autre esprit dans ce monde? L'Église, me semble-t-il, n'est pas appelée à être à la remorque de celui-ci, à commenter indéfiniment à longueur de journée l'agitation du monde, mais à être signe dans ce monde de la présence du Christ. Jésus nous promet que là où il est, nous serons avec lui. Il nous promet que dans un monde inquiet, il demeure notre paix, que dans un monde confus, il demeure notre lumière, que dans un monde dur, il répand son amour en nos cœurs et nous envoie dans ce même monde afin que nous rendions visible cet amour et cette lumière pour tous les hommes, pour toutes les femmes. Je vous invite à la prière.